découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Amin Ghasmi sur Nutri Radio.
Oh bonjour Amin.
Bonjour Fabrice.
Ça va, vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Je suis ravi de vous retrouver. Je prends mon temps maintenant pour parler parce que je me rends compte que comme c'est la dernière émission, je voudrais profiter au maximum de votre présence, mon cher Amin. Et merci à nos auditeurs qui en profitent tout autant chaque semaine. Dernière émission de la saison, ça passe très très vite. La saison prochaine, on sera déjà à la sixième année, sixième saison de Nutri Radio, le pari fou. Je pensais qu'on allait faire 6 mois, moi. Fait 6 ans. C'est fou. Merci à vous de nous écouter, donc, si vous le faites sur le live. Et si vous êtes en podcast, pensez à vous abonner. C'est gratuit, vous vous abonnez gratuitement, comme ça nous aide à vous proposer une saison prochaine de folie, avec une grille incroyable. Et mon petit doigt me dit qu'Amin Ghasmi sera de la partie, n'est-ce pas mon cher ami?
Avec grand plaisir, oui, effectivement.
On a plein de questions qui vous concernent. Avant de passer aux questions, puisqu'on s'était dit la semaine dernière que pour la dernière émission de la saison, on allait essayer de faire de notre mieux pour répondre aux questions des auditeurs qui sont nombreuses. Et pardonnez-nous par avance de ne pas répondre à toutes vos questions, car on en a vraiment beaucoup, c'est pas pour se la raconter, mais sur toutes les émissions. Et donc, vous l'avez vu, on est une petite équipe, et notre point fort... ce n'est pas la réponse au mail ni aux questions. On en a d'autres, mais on fera ce qu'on peut aujourd'hui. Merci à notre partenaire. Énorme merci à notre partenaire engagé. Ça y est, dans toutes les marques de compléments alimentaires, il faut des marques engagées sur lesquelles on peut compter, qui on peut avoir confiance en tant que consommateur. Et donc, Nutrilogix, merci à ce partenaire engagé qui travaille avec des professionnels de santé d'ailleurs aussi pour élaborer leur formule. On a parlé de beaucoup de choses, le temps passe vite lors de cette émission 360 au cours de laquelle ont vu se succéder au micro Stéphane Résimont, Christian Boyer, Amin Ghasmi. C'est un peu l'émission des stars, c'est un peu Fréquence Star version santé. Et on a une première question de Maïna, que l'on embrasse évidemment et que l'on salue. J'ai une question pour... Donc, bonjour, j'ai une question pour Amin Ghasmi. Est-ce que la vitamine K2 présente dans les compléments alimentaires MK7 est contre-indiquée aux personnes présentant des troubles de la coagulation sanguine? Je vous remercie.
Alors, bonjour Maïna. Donc, merci pour cette question intéressante qui revient très très souvent. Et donc, il y a deux réponses en fait. Ah. Là, je vais te donner une réponse et l'autre, je vais la garder plutôt pour les pros de la santé, les médecins. Mais en gros, on a jusqu'à maintenant 3 études cliniques dans lesquelles on teste la vitamine K2, donc la fameuse MK7. Chez des personnes soit présentant des troubles de la coagulation ou prenant ou pas d'ailleurs des traitements anticoagulants. Et dans cette étude-là, dans ces 3 études-là, on voit qu'il n'y a pas de différence significative dans les marqueurs de la coagulation selon ces études-là. Encore une fois, je précise bien parce que ça peut être, on peut avoir d'autres études plus tard qui montrent le contraire, on n'en sait rien. Globalement, moi, ce que j'explique aux médecins habituellement, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis d'interaction avec les anticoagulants, mais il faudra quand même surveiller. Il faudra quand même voir, surveiller les marqueurs de la coagulation et tout ça. Donc, il faudrait être plutôt... réservé et conservateur sur cette question-là et ne pas juste donner comme ça sans vérifier. Voilà, ça c'est la première réponse et puis je laisse l'autre réponse là pour je ne pense pas que ça soit le cadre ici de développer cette réponse.
C'est comme ça qu'on est. Vous savez, Amine, il y a beaucoup d'interlocuteurs intervenant sur cette antenne pour. En fonction des émissions, j'invite aussi Pollux.
Salut, moi c'est Pollux.
Et vous, vous dites non, sors pas Pollux, je fais le réglementaire moi-même. C'est vrai qu'il y a des choses. Cette émission, c'est de l'information. C'est pas de la consultation en ligne, c'est pas de la prescription. Donc on fait très attention, bien évidemment, à ce qu'on dit. J'espère que vous avez une piste quand même de réponse, Maïna. Et puis si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous avec un professionnel de santé. Vous êtes d'accord, Amine ?
Absolument.
Donc, j'espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, la question suivante. Tiens, vous savez quoi, je suis trop éparpillé aujourd'hui. Il y a des notifications de partout, des emails de tous les côtés. Monsieur Amine, Amine, vous êtes une rockstar. Allez, question suivante. Bonjour Amine, merci pour cette émission. C'est Caroline de Nice. Depuis plusieurs années, je souffre d'une fatigue chronique que personne n'arrive vraiment à expliquer. Mes analyses sont souvent dans les normes, mais je ne me sens jamais en pleine forme. En vous écoutant parler des mutations MTHFR et de la B9 bioactive, je me demande si certaines personnes ne passent pas à côté d'un problème invisible. Est-ce que ce type de mutation pourrait expliquer ce genre de situation ?
Pas toujours. Donc, bonjour Caroline, merci pour la question. Donc, c'est une description qui est assez vague. Il peut y avoir plus de 200 causes à ce problème-là de fatigue chronique. Donc, le mieux, c'est de regarder avec un pro de la santé, un médecin fonctionnel, un pro de la santé formé qui peut vous orienter. Mais globalement, pour répondre quand même un petit peu à cette question, oui, il est possible que dans des situations d'hypométhylation, soit dû à cette mutation ou d'autres, ou d'ailleurs pas nécessairement un problème génétique, mais c'est justement un blocage de la méthylation, on peut, dans un certain nombre de cas, avoir ce genre de situation comme ça de fatigue chronique. Mais encore une fois, c'est une piste parmi des dizaines, voire plus. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en charge auprès d'un médecin.
Quelles précautions vous prenez ? Mamine, c'est vrai que les gens... Vous savez, pour voir toutes les questions que l'on reçoit sur plein d'émissions, c'est là, je me dis, il y a quand même beaucoup d'errances médicales, beaucoup de gens qui se posent des questions sur la santé, qui n'ont pas les réponses et qui nous disent, quand on regarde des professionnels, ils ne savent pas forcément non plus. C'est compliqué hein, d'avoir comme ça des symptômes ou vivre des situations. Enfin, la santé, c'est plus simple, mon cher Amine.
Ouais, mais c'est plus simple sur les grands principes, mais dans les détails, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser, effectivement, oui.
Eh oui, donc restez à l'écoute d'une radio, c'est pour ça qu'on se bat avec vous depuis le début pour essayer de vous éclairer. Et après, il y a des professionnels de santé qui sont là pour vous accompagner, bien évidemment, pour vous expliquer, dont Amine. Et Amine, comment on fait pour vous joindre d'ailleurs à titre professionnel ?
Ben, il y a mon site, orthodiète.org. Déjà, puis il y a les différents réseaux sociaux qui sont disponibles, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs.
Bon, ben voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi des sources d'informations et des gens qui sont plus disponibles peut-être qu'auparavant, finalement. Bon, je sais pas, c'est pas la question du jour. La question maintenant est celle de Vincent. J'ai eu plusieurs épisodes de zona et d'herpès au cours des 10 dernières années. À chaque période de stress, ça revient. Quand vous expliquez que certains virus utilisent davantage la B9 et que la méthylation... que certains virus utilisent davantage la B9 et que la méthylation participe à leur contrôle, je me demande s'il peut exister un lien entre ces réactivations répétées et un déficit en B9.
Oui, alors bonjour Vincent, merci pour la question. Effectivement, c'est une piste à creuser. Effectivement, donc le zona, c'est un herpès virus, donc c'est ce qu'on appelle un virus à réactivation. Donc qui en gros est là et quand il y a une baisse de l'immunité, notamment avec des épisodes de stress ou avec un manque de sommeil ou avec dans certains cas une mauvaise alimentation, une surcharge, un surmenage, une fatigue, donc on va avoir une baisse de l'immunité et c'est ces moments-là qui sont privilégiés pour le virus de se remanifester. Et donc, dans cette situation-là, oui, effectivement, une des pistes à creuser, c'est la méthylation. Donc, puisque plus on a de capacité à méthyler et plus on arrive à réprimer la réactivation de ces virus-là. Après, il y a d'autres pistes. Il y a aussi la piste des antiviraux naturels hein, qu'on peut avoir. Il y a des produits sur le marché, d'excellents produits sur le marché qui sont destinés à ça. Il y a aussi les régulateurs de l'immunité, notamment des champignons, le reishi, tout ça, cordyceps, voilà, etc., shiitake et tout le reste, donc la propolis aussi pourrait être intéressante, mais c'est tout ça, c'est des pistes à explorer, et en fait, le problème est complexe. Il faudrait explorer toutes ces pistes-là avec probablement des analyses, probablement avec un thérapeute expérimenté, pour pouvoir déterminer les vulnérabilités chez vous, chez donc Vincent, et voir voir quelles sont les pistes les plus privilégiées chez lui.
Merci mon cher ami. On marque une toute petite pause. Vous restez avec nous. Après, vous allez nous confier quelque chose en fin d'émission que vous n'avez encore jamais dit à personne. C'est le petit scoop d'Amine Ghasmi pour faire un petit peu de digression. Et c'est juste après ceci.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Amine Ghasmi sur Nutri Radio.
La suite de cette émission avec Amine Ghasmi sur Nutri Radio. Amine, je vous ai pas fait peur en annonçant que vous alliez nous annoncer un scoop tout à l'heure?
Bah, je suis en train de me demander qu'est-ce que tu vas me poser comme question là, parce que on n'avait rien prévu. Hein.
C'est vrai, mais, si je savais les questions que je pose à l'avance, j'aurais fait une longue carrière, j'aurais fait une brillante carrière. Ça, bon, tiens, on a un médecin qui nous quitte, donc Eric à Angers, qui vous remercie déjà pour ces émissions. Et je pense qu'on est là quand même dans un niveau de question. On s'accroche. Et je rappelle quand même, pour l'exercice, que Amine n'a pas les questions en avance. Vous voyez, on enregistre, on est en distanciel. Je dis ok Amine, c'est parti, c'est l'heure, on y va. Et là, et donc merci beaucoup Amine. Il y en a dans le ciboulot, comme on dit. Bon, donc, dans mon cabinet, je vois régulièrement des patients qui présentent un syndrome de l'intestin irritable depuis des années. Certains ont déjà réalisé de nombreux examens sans résultat concluant. En vous écoutant parler du blastocystis et des porteurs sains, je me demande à partir de quel moment vous considérez qu'un parasite détecté devient un suspect crédible dans la symptomatologie du patient.
Oui, alors, très bonne question. Merci donc pour Eric, qui est médecin.
C'est ça, généraliste à Angers.
Et donc, en fait, syndrome intestin irritable, il faut savoir que dans les études, on a à peu près la moitié, en fonction des études, ça va de quelque chose entre 40% à 60% à peu près, de prévalence de SIBO, le syndrome d'hyperprolifération bactérienne de l'intestin grêle. Donc, on a à peu près la moitié des syndromes intestin irritable qui sont pas des SIBO en tant que tels, mais qui présentent un SIBO. Et donc, si quelqu'un a un syndrome intestin irritable et qui présente un SIBO, c'est-à-dire que c'est probablement que ça joue en très grande partie dans son syndrome intestin irritable. Maintenant, les cas de parasitose, alors c'est très complexe parce que il faudrait déjà, par rapport au syndrome intestin irritable, il faudrait explorer le stress, le sommeil, l'intestin en tant que tel, c'est-à-dire les explorations fonctionnelles, la dysbiose, l'inflammation, l'hyperperméabilité, le statut sécréteur, donc la qualité du mucus. Il faudrait explorer aussi les intolérances alimentaires, l'intolérance à l'histamine, la sensibilité au gluten. Il faudrait explorer aussi l'immunité, les marqueurs de l'immunité, les IgA sécrétoires, les bêta-défensifs, etc. Donc, quand on a une idée globale sur les déterminants, les grands déterminants du syndrome de l'intestin irritable et qu'on voit que il n'y a pas grand-chose qui pourrait expliquer ce syndrome intestin irritable, mis à part ce blastocystis, alors à ce moment-là, on pourrait décider que dans ce cas-là, ce blastocystis y est pour quelque chose, probablement. C'est une hypothèse. Le souci avec le blastocystis, alors on a des souches de blastocystis qui sont pathogènes, on a des souches qui sont saprophytes. Voilà, c'est ça le truc. Donc là, on ne peut pas le voir avec une analyse classique de parasites. Il faudrait faire un Dynamaps. C'est une analyse là pour métagénomique pour déterminer les souches exactes. Mais ça se fait pas ou très rarement et c'est plutôt ça relève plutôt de la recherche. Donc globalement, il faudrait procéder par élimination simplement parce que parfois vous avez un SIBO et un blastocystis, ou une infection virale et un blastocystis, vous éliminez ou vous traitez le blastocystis et de l'autre côté, vous avez une aggravation. Il se pourrait qu'en fait, vous ayez éliminé plus de souches saprophytes que pathogènes et que ces souches saprophytes maintenaient encore un semblant d'équilibre. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Effectivement, la question est intéressante. Faudrait, pour moi, voir tous les facteurs potentiellement entrant dans ce syndrome intestinal irritable et voir un petit peu, essayer d'arbitrer. Et si, à ce moment-là, tous ces facteurs-là n'expliquent pas le syndrome intestinal irritable, à ce moment-là, on pourrait décider que le blastocystis est en cause dans ce cas.
Je n'ai absolument rien compris à ce que vous avez dit, mais c'est normal. Je ne suis pas médecin, j'espère que le médecin a bien compris et que tous les professionnels de santé et bien-être ont compris également. Et si vous êtes comme moi un petit peu passionné de santé, mais pas forcément aussi expert, eh bien, vous avez certainement appris beaucoup de choses, notamment dans les mots, pour une prochaine partie de Scrabble, de je sais pas. Voilà, mais j'ai écouté avec attention. Je suis impressionné, je suis quand même impressionné, je vous le dis mon cher Amine, et ça ne m'empêchera pas d'enchaîner avec une question de Sophie qui est naturopathe, elle, à Annecy, et qui vous demande, elle dit qu'elle est, bah pareil, elle accompagne beaucoup de personnes des troubles digestifs chroniques, et elle dit, j'ai remarqué que certains patients reviennent de voyage avec des troubles qui persistent plusieurs mois malgré une alimentation irréprochable. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait davantage sensibiliser les professionnels du bien-être à la possibilité de parasitose? On n'a pas parlé de parasitose ensemble, mais certainement que ça faisait plaisir de lui poser, de vous poser cette question.
Oui, bonjour Sophie, merci pour la question. Effectivement, donc quand on voyage, surtout dans des lieux un peu exotiques, etc., en Afrique, en Asie, etc., en Inde et tout ça, donc on peut, bien entendu, on a plus de chances d'attraper des parasites, des infections parasitaires. Pas parce qu'il y en a beaucoup plus là-bas ou quoi, parce que simplement, si on vit beaucoup plus souvent dans un endroit, ben on va être plus adapté aux pathogènes, aux micro-organismes de cet endroit-là. Donc, si on change d'endroit, donc si on voyage pendant un certain temps et qu'on rentre, ben on va certainement développer. Enfin, quand je dis certainement, ça dépend. Après, il y a des précautions à avoir par rapport à l'hygiène, par rapport à ce qu'on mange et tout ça. Et oui, c'est plus probable, oui, d'expliquer ça de cette façon, donc par notamment des parasites. Ça, c'est relativement fréquent. Donc oui, il faudrait dans ce cas-là, pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui sont les plus vulnérables au niveau digestif, de faire attention, d'avoir une hygiène irréprochable dans ces endroits-là, d'essayer de manger de manière plus propre, de bien cuire les aliments, en tout cas ce qui est censé être cuit, etc. Et en même temps, probablement, pourquoi pas, faire, si nécessaire, alors, comme je le disais, les personnes qui souffrent vraiment de troubles digestifs et qui ont un terrain digestif, faire des analyses là avant et après et tout ça pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être sans les analyses, dans certains cas, faire des cures de déparasitage systématiquement. Après, c'est complexe parce que les parasites, c'est pas qu'un seul type ou quelques types de parasites, c'est assez complexe. Donc c'est pareil, on revient toujours au rôle du professionnel de santé qui doit prendre en charge ces problématiques-là, comme Sophie là, donc comme ce que vous faites. Donc voilà, pour moi c'est évident que ça puisse concerner des parasites.
Bien, on va refaire une dernière question d'un professionnel de santé et puis après on partira pour une dernière question d'un auditeur qui ne l'est pas. Donc laquelle tiens, médecin fonctionnel à Montpellier, Karim, qui vous dit bonjour Amine, je vois régulièrement des patients présentant une hyperhomocystéinémie modérée. Vous avez rappelé l'importance conjointe de la B9 et de la B12 dans la méthylation. Dans votre expérience, à partir de quel niveau d'homocystéine considérez-vous qu'il devient pertinent d'explorer sérieusement le statut fonctionnel en B12? Et moi qui voulais faire radio camping il y a quelques années, je suis loin de tous ces sujets. Non, je plaisante. Mon cher Amine.
Ok, bonjour Karim. C'est Karim ou Karine?
Karim.
Karim, donc bonjour Karim. Et question intéressante aussi. Alors, les normes classiques dans un certain nombre de labos, ça va être à partir de la limite supérieure, à partir de 12 d'homocystéinémie, dans certains cas 11, etc. Mais en fait, en médecine fonctionnelle, on va considérer que la norme la plus intéressante, c'est à partir de 8 voire 9, en tout cas on est plus bas, c'est-à-dire qu'on doit avoir un taux d'homocystéine qui est plus bas ou plus bas que ce qui est habituellement considéré comme normal. Maintenant, à partir de quel moment on peut considérer, on commence à considérer l'intérêt de la B12 et le taux de B12, si j'ai bien compris, eh bien, en fait, c'est pas par rapport à un taux. Oui, c'est clair que si on a une hyperhomocysténémie à plus de 30, ben c'est une hyperhomocysténémie sévère. À ce moment-là, il va falloir faire un bilan complet des vitamines du groupe B et tout ça, et voir qu'est-ce qui va pas, et peut-être même des analyses génétiques à faire avec le médecin, bien entendu. Mais le plus important, c'est comment ce taux d'homocystéine répond à la supplémentation en vitamine B9 et B12. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que, mettons que vous avez un patient qui a une hyperhomocysténémie, admettons qui est, par exemple, admettons à 18, voilà. Ok, bon, vous voyez, il y a une hyperhomocysténémie, vous décidez de donner de la B9 et de la B12. Après tout ce que vous avez vu au niveau de son bilan et tout ça, et donc vous regardez, vous voyez que ça se normalise. Bon, ça passe à 15, à 12, à 8, etc. Donc il y a une amélioration. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est bon, tout va bien. Là où il faut explorer réellement, à la fois du côté de la B9 et du côté de la B12, leur métabolisme réellement un peu plus en détail, c'est lorsque vous avez une baisse, mais que ça reste limité, c'est-à-dire il y a une amélioration. Par exemple, on passe de 18 à 12, par exemple, au bout de 2-3 mois, et que ensuite, ça ne bouge plus. Bah, là, il faut voir pourquoi. Il faut explorer. Et c'est pas juste la B12, ça peut être aussi la B9, ça peut être aussi la bétaïne, donc la triméthylglycine pour ce qu'on appelle la voie raccourcie. Donc ça pourrait être ça pourrait être aussi la B6 également, ça peut être un problème de transsulfuration, bon ça c'est peut-être un peu compliqué, mais comme je parle à médecin fonctionnel, je me permets d'expliquer ça de cette façon, la B2, le zinc, voilà. Donc le plus important, encore plus important que le niveau d'homocystéine, c'est la réponse à la prise en charge de cette hyperhomocysténémie, si ça marche plus ou moins bien ou pas, ou moins bien. À ce moment-là, on va explorer un peu plus.
Vous savez que vous avez répondu en même temps à une question d'auditeur qui n'était pas aussi précise, mais vos éléments de réponse, je pense, doivent le satisfaire. Et comme on n'a plus le temps, ça tombe extrêmement bien. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir la saison prochaine, mon cher Amine. Et aussi, vous serez sur NutriTV, donc dans cette magnifique émission Expérience Santé, le premier talk show télé consacré, enfin qui mêle expertise santé et humour, qui cartonne sur YouTube avec, on est à plus de 100 000 vues par épisode. Donc merci à vous. Et on se retrouve donc la saison prochaine. On vous met des podcasts en best-of aussi, et sur le live on vous mettra des best-of aussi tout l'été avec de la bonne musique, vous inquiétez pas, c'est pas qu'on part en vacances, hein, c'est que là on a le Nutrito Gala, il faut que j'aille chercher mon costume au pressing, c'est normal. Merci beaucoup mon cher Amine, à bientôt.
Merci Fabrice et à très bientôt, merci à tout le monde, au revoir.
Ce podcast est disponible dorénavant, ça devient un podcast, boum, on le met sur les plateformes de streaming audio dès maintenant, si vous venez d'arriver, comme ça vous ne ratez rien, et puis surtout pensez à partager, n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions sur le site nutriradio.fr, formulaire de contact. On se retrouve la saison prochaine. Passez un bel été à l'écoute du son de Nutri Radio. Et puis pour ceux qui seront au Nutrito Gala, on se voit très vite.
Santé 360, Amine Gasmi sur Nutri Radio.